Alors, nous sommes en compagnie à présent donc de Damien Vacher, un jeune curieux du monde politique actuel, et de monsieur André Dautrib, donc maître de conférence en sciences politiques, responsable pédagogique de la faculté de droit et de sciences politiques de Nevers. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bon, voilà, je suis un jeune assez intéressé par la vie politique de notre pays.
Oui.
Cependant, quelques questions parce que je ne connais pas tout à fait le monde politique.
Bon, bah, écoutez, je vais essayer de vous répondre. Puisque je suis chargé à la faculté de droit de Nevers du cours de droit constitutionnel.
Alors, voilà, au début, là, nous sommes en période électorale.
Oui.
Nous sommes en période électorale, nous allons voter pour des députés. Mais qu'est-ce qu'un député réellement ?
Alors, nous allons, vous savez qu'on vient d'élire le président de la République, donc le 7 mai dernier. Et donc, ces élections présidentielles sont associées à des élections législatives. Donc, les élections législatives, elles sont destinées à élire des députés qui forment l'une des deux chambres du Parlement français. Vous savez que d'un côté, on a des députés qui sont élus au sein de l'Assemblée nationale, et l'autre chambre sont les sénateurs qui siègent au Sénat. Donc les députés, ils sont élus pour, d'une part, voter les lois et contrôler le gouvernement dans son action politique. Le président qui a été élu, donc il y a dizaines de jours, ne peut actuellement rien faire tant que les députés ne sont pas élus. Et pour pouvoir agir, il a besoin d'obtenir une majorité de députés qui le soutiennent dans ses choix politiques. Voilà. Et donc, au mois de juin prochain, les 11 et 18 juin, on va élire nos députés à l'Assemblée nationale. Voilà.
Comment on élit justement un député ? Comment on choisit un député, justement ?
Alors, comment on choisit un député ? Alors d'abord, tout Français ou Française qui est, tout électeur de nationalité française, peut donc être élu député à l'Assemblée nationale, qu'il soit un homme ou une femme, évidemment. Bon. Pour être élu à l'Assemblée, il faut avoir la nationalité française, évidemment. Il faut être majeur, il faut avoir au moins 18 ans. Il faut donc, comme on le dit dans les lois, jouir de ses droits civils et politiques, c'est-à-dire ne pas avoir été condamné pour une peine de prison, pour un délit quelconque. Bon. Et puis, donc, on peut... évidemment, il faut aussi, quand on est élu député, pour s'engager à la politique, il faut aujourd'hui plutôt être soutenu par un parti politique. Une personne indépendante, vous pouvez, si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez être candidat aux élections législatives. Mais pour pouvoir être candidat, ça veut dire qu'il faut s'engager dans une campagne électorale, engager des dépenses, pour faire un peu de publicité, de propagande, pour défendre ses idées, etc. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour un particulier qui n'est pas soutenu par un parti politique de s'engager dans une campagne électorale. Donc il faut un minimum de moyens financiers. Donc voilà, généralement, ce sont les partis politiques. Il faut être investi par un parti politique, c'est-à-dire être désigné par un parti politique pour le représenter dans une circonscription.
Mais justement, qu'est-ce qu'un parti politique, en fait ?
Alors, un parti politique, un parti politique, c'est, si vous voulez, c'est une forme d'association de personnes qui défendent un certain nombre d'idées politiques qui correspondent à une conception de l'économie, de la société, etc. Bon, vous savez, la vie politique est partagée traditionnellement entre ce qu'on appelle les partis de gauche et les partis de droite. Et donc, il y a plusieurs partis qui se situent plutôt à gauche et plutôt à droite de l'échiquier politique. Mais aujourd'hui, cette répartition est un peu mise en cause justement par l'élection présidentielle, puisque certains partis, certains mouvements ne se revendiquent ni de droite ni de gauche.
Actuellement, le président de la République a une étiquette politique qui est La République en marche. L'actuel Premier ministre avait une étiquette Les Républicains.
Oui.
Est-ce que nous sommes dans ce qu'on appelle la cohabitation ?
Non, on se situe pas dans la cohabitation. La cohabitation, c'était un terme qui avait été utilisé, il y a assez longtemps maintenant, pour désigner la cohabitation entre un président de la République d'une couleur politique. À l'époque, c'était François Mitterrand, qui, vous le savez, avait été élu en 1981, puis en 1988, à l'époque pour un mandat de 7 ans, et qui donc a été confronté au cours de son mandat à des élections législatives, puisque donc à l'époque le mandat du président de la République était de 7 ans et le mandat des députés de 5 ans. Donc en cours de mandat, il a dû affronter des élections législatives qui ont abouti à une majorité parlementaire différente de la majorité présidentielle, et donc il a été dans l'obligation de choisir un Premier ministre qui était de la même couleur politique que la majorité parlementaire. Et donc le président à l'époque, qui était de gauche, qui était socialiste, a dû donc choisir un Premier ministre de droite à l'époque, puisque la majorité parlementaire était de droite. Et c'est ça qu'on a appelé la cohabitation. Donc depuis 1986, il y a eu 3 cohabitations. Entre donc 2 fois, François Mitterrand a été confronté à une majorité politique de droite. Donc il a dû choisir un Premier ministre de droite. Et ensuite, Jacques Chirac de droite était confronté à une majorité politique de gauche et avait dû choisir un Premier ministre de gauche qui était à l'époque Lionel Jospin. Et c'est ça qu'on a appelé la cohabitation. Mais actuellement, le président de la République qui a été donc désigné, élu aux dernières élections présidentielles, délibérément choisi, donc il est face à une majorité parlementaire qui est inexistante, puisque les élections législatives n'ont pas eu lieu et le résultat donc n'a pas été le résultat on ne le connaît pas encore, puisque le résultat on le connaîtra le 18 juin au soir. Et donc il a choisi de faire appel à une personnalité qui est issue de la droite, mais on ne se situe pas dans le cadre d'une cohabitation. On peut plutôt parler de coexistence entre des personnalités différentes. C'est un gouvernement actuellement qui comporte des personnalités qui sont issues de la droite, qui sont issues de la gauche, qui sont issues du centre. Il a essayé de former un gouvernement qui regroupe des personnalités de plusieurs partis politiques, donc on peut appeler ça de la coexistence, mais pas une cohabitation.
Que se passerait-il si en juin, la majorité au pouvoir n'est pas la même que la majorité présidentielle ?
Alors si la majorité au pouvoir n'est pas la même que la majorité présidentielle, alors là, on se situera, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le cadre d'une cohabitation. Il sera évidemment dans l'obligation de choisir une personnalité qui bénéficie du soutien de la majorité parlementaire. Et si cette majorité est différente de la sienne, évidemment, on se situera dans le cadre d'une cohabitation. Bon, ce qui, a priori, serait surprenant, puisque dans la foulée des élections présidentielles, traditionnellement, on élit des députés qui soutiennent donc les options politiques du président.
Revenons un petit peu sur le sujet des députés. Où travaille un député, vous avez dit, à l'Assemblée nationale, mais il travaille aussi sur le territoire.
Alors, les députés, vous savez que donc la France, elle est divisée en 577 circonscriptions électorales. C'est-à-dire qu'au sein de l'Assemblée, aux élections législatives prochaines, on va élire 577 députés qui représentent donc la France, les territoires d'outre-mer et les Français qui donc travaillent à l'étranger ou qui habitent à l'étranger, qui vivent à l'étranger. Donc les députés, donc la France est découpée en 577 circonscriptions, la France métropolitaine et d'outre-mer, et chaque circonscription élit un député. Alors le nombre de députés de 577, il est fixé par la Constitution et on ne peut pas le modifier. En revanche, on peut modifier les circonscriptions électorales, puisque donc un député est censé représenter environ 125 000 habitants, je crois. Voilà. Et donc chaque département est divisé en circonscriptions et donc il y a des départements qui n'ont qu'une seule circonscription. Il y a des départements très peu peuplés. Je pense qu'il doit s'agir de la Creuse, par exemple, ou de la Lozère, qui est très peu peuplée. Donc, au minimum, un département a un député, mais il peut en avoir plusieurs. Et donc, alors, les députés, ils représentent... Alors, ce que dit la Constitution, c'est que les députés représentent toute la nation. Donc, un député est censé représenter la nation tout entière. En réalité, pour les électeurs, un député représente son département d'origine. Mais ça, ce n'est pas ce que dit la Constitution. La Constitution nous dit qu'un député représente la nation. L'idée, c'est que lorsqu'un député est élu, il est censé prendre part donc aux délibérations de l'Assemblée, voter des lois qui sont conformes à l'intérêt général de tout le pays, mais pas simplement de sa circonscription. Alors ça, je dois dire qu'effectivement, c'est une fiction parce que dans l'esprit des électeurs, un député qui est élu, donc l'électeur considère qu'il représente les intérêts de la circonscription dans laquelle il est élu.
Et le pouvoir, en fait, d'un député
Alors, le rôle d'un député, c'est de voter la loi, d'abord. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, donc là aussi, il y a une différence entre, si vous voulez, la théorie et la pratique. En théorie, ce sont les députés qui proposent la loi et qui votent les lois. Dans la réalité, là, 90% des lois qui sont votées par les parlementaires sont des lois qui ont été préparées par le gouvernement. Et donc, 90% des lois sont préparées par les ministres, par le gouvernement, sont discutées à l'Assemblée et donc ensuite sont promulguées par le président de la République et sont appliquées par le gouvernement. En réalité, donc, je vous disais que les députés sont plutôt des exécutants du gouvernement, des choix politiques du gouvernement. Alors, ce qu'ils peuvent faire, ce qui, en réalité, réduit un petit peu leur pouvoir. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est apporter des modifications aux projets de loi qui leur sont présentés par le gouvernement. Alors, ils peuvent, donc, c'est ce qu'on appelle des amendements. Donc, ils peuvent amender la loi, ils peuvent amender les dispositions de la loi et donc influer sur le contenu des dispositions de la loi. Et ça, ils le font au sein des commissions législatives parlementaires.
Et c'est quoi, en fait, une commission ?
Alors, une commission, vous savez que il y a 577 députés, et ces députés sont répartis, donc travaillent au sein du Parlement, au sein de commissions. Donc, il y a plusieurs, à l'Assemblée nationale, donc, il y a plusieurs commissions, il y a 8 commissions. Et donc, les députés sont répartis entre ces commissions. Alors, vous avez, par exemple, la commission des affaires sociales, vous avez la commission des affaires étrangères, etc. Et donc, en fonction des centres d'intérêt d'un député, tel ou tel député sera inclus dans telle ou telle commission. Voilà, en fonction de ses choix, de ses centres d'intérêt, etc.
Mais du coup, c'est pour la raison qu'on ne voit pas tous les députés lors des questions.
Alors, c'est en partie, vous avez raison, c'est la raison pour laquelle souvent, lorsque donc il y a des retransmissions des débats parlementaires à la télévision, on voit beaucoup de bancs vides à la télévision parce que effectivement les députés travaillent en commission au sein des commissions. Donc le travail, il se fait essentiellement au sein des commissions. Ensuite, donc, l'Assemblée, donc, il y a les séances publiques, les séances plénières, dans ces séances plénières, on procède au vote de la loi, au vote des différents articles de la loi, puis au vote de la loi dans sa globalité, et donc qui permet ensuite de pouvoir la transférer, c'est-à-dire au Sénat. Et puis, une fois que la loi a été adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi, ensuite, peut être promulguée par le président de la République. Alors, ce que je voulais également vous dire, c'est que l'autre mission des députés, outre la fonction législative, c'est la fonction de contrôle du Parlement. La fonction du contrôle du gouvernement. Ils sont chargés de vérifier, de contrôler, donc, que la loi est bien exécutée par le gouvernement. Donc, un député, il a comme autre possibilité de mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement s'il considère que le gouvernement n'exécute pas convenablement les lois qui ont été votées au sein du Parlement. Et enfin, il a une mission d'évaluation des effets de la loi, donc, qui est réalisée ensuite au fil du temps pour vérifier que la loi a correctement été appliquée.
Mais il n'y a pas justement une limite pour la création justement de ces lois. J'ai cru entendre parler de l'article 49.3 et d'ordonnance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu, nous dire quelle est la différence ?
Alors, l'article 49.3, c'est un article donc qui est contenu dans la Constitution et qui permet d'interrompre la procédure législative parlementaire et qui permet de faire adopter globalement une loi sans qu'intervienne un vote de la loi article par article. Donc en fait, c'est un article qui permet d'interrompre la procédure et de voter la loi dans sa globalité. Ce qui veut dire que les députés de la majorité ont un choix très simple. Soit ils votent la loi telle qu'elle a été proposée par le gouvernement, sans pouvoir discuter article par article, soit il ne vote pas la loi dans sa globalité. Mais le problème, c'est que s'il ne vote pas la loi, ça crée, évidemment, vous le comprenez, une crise politique. Ils ont, l'article 49.3 indique qu'ils peuvent donc déposer une motion, ça veut dire qu'ils censurent le gouvernement, et que donc la loi n'a pas été votée, le gouvernement est censuré, et il doit donc démissionner. Donc, si vous voulez, c'est une espèce d'épée de Damoclès sur les parlementaires qui choisissent, ou non, soit de soutenir le gouvernement, soit de provoquer une crise politique, éventuellement le renversement du gouvernement, et donc le changement de gouvernement. Voilà. Quant à la question des ordonnances, ça c'est un autre sujet. Les ordonnances, elles sont fixées dans l'article 38 de la Constitution. Alors là, c'est la possibilité pour les parlementaires de déléguer leur pouvoir législatif au gouvernement. Ils votent donc une loi qui autorise le gouvernement à légiférer à leur place. Voilà. Le gouvernement peut alors prendre des ordonnances qui ont une valeur législative, donc qui ont la même qualité que la loi, sauf qu'on ne peut pas les appeler des lois, puisqu'elles n'ont pas été votées par les parlementaires. Elles ont été promulguées par le gouvernement. Et alors, ces ordonnances, au terme d'un délai qui est fixé dans la loi d'habilitation, elles doivent être ensuite ratifiées par les parlementaires. Voilà. Par une loi.
Par conséquent, les députés ne peuvent pas modifier les textes qui sont passés en ordonnance.
Les députés, non. Les députés ne peuvent pas modifier les textes qui ont été adoptés par ordonnance. Ils votent une délégation de pouvoir pour une durée déterminée. À l'issue de cette durée, le gouvernement propose une loi de ratification qui est destinée à valider l'ordonnance telle qu'elle a été promulguée par le gouvernement.
J'ai une question sur justement le cumul des mandats.
Oui.
Cela va impliquer... Alors, j'ai pas trop compris en fait l'histoire du cumul des mandats.
Oui.
Est-ce que ça va du coup renouveler l'ensemble du panel politique qui est au sein de l'Assemblée, ou parce que généralement on élit des maires qui sont parfois aussi députés connaissent le métier.
Il y avait traditionnellement des députés maires ou des exécutifs locaux qui cumulaient leur fonction de parlementaire avec une fonction exécutive locale. Alors l'idée, donc il y a une loi récente qui a été adoptée par la majorité parlementaire sortant, qui est destiné à ce que l'on appelle limiter le cumul des mandats. C'est-à-dire que, donc, à partir de cette année 2017, les parlementaires qui seront élus ne pourront pas cumuler leur fonction de parlementaire, de député, avec une fonction exécutive locale. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus être à la fois maire, président de conseil départemental, président du conseil régional, président d'une communauté d'agglomération, par exemple, président d'une communauté de communes, avec le mandat de député. Bon, l'idée, c'était d'ouvrir la représentation politique à de nouveaux élus, pour faire en sorte que les fonctions de parlementaires ne soient pas accaparées, si vous voulez, par finalement toujours les mêmes. Je crois que c'était aux alentours d'une question de 25% des députés qui cumulaient leur fonction avec une fonction exécutive locale. Voilà. Et donc on considérait que pour pouvoir renouveler un peu la classe politique, pour l'ouvrir à des jeunes notamment, à des jeunes élus, à des gens de la personnalité civile, il fallait limiter le cumul des mandats.
Mais il n'y avait pas déjà eu une loi un peu dans ce sens de renouvellement avec...
Il y a eu des lois dans le passé, mais on a considéré qu'elles n'allaient pas assez loin. Il y avait des lois, par exemple, qui interdisaient à un député d'être à la fois député français et député européen, qui interdisaient d'être député et ministre. Là, on va beaucoup plus loin. Et donc ça, évidemment, ça va contribuer. Donc vous avez vu que vous avez, par exemple, l'Assemblée nationale sortante, 200 députés qui ne demandent pas le renouvellement de leur mandat.
Est-ce que cela veut aussi dire que l'on va se retrouver avec des députés qui ne connaissent pas vraiment cette fonction-là ?
Ah oui, sans aucun doute, il y aura beaucoup de nouveaux députés qui n'ont jamais été parlementaires dans le passé et qui vont découvrir ce qu'est la fonction parlementaire. Ça, c'est évident. Dans la prochaine assemblée, il y aura beaucoup de nouveaux députés, hommes et femmes, évidemment.
Voilà, justement, revenons sur cette égalité homme-femme.
Oui.
C'est justement une loi qui a permis cela. Parce qu'il n'y avait pas assez de femmes au Parlement ?
Il y avait très peu de femmes au Parlement, oui. Il y avait très peu de femmes, non seulement au Parlement, mais également dans toutes les assemblées locales. Vous savez, par exemple, que pour les dernières élections, alors ce qu'on appelait autrefois les élections cantonales, qui sont devenues donc les élections départementales, il y a une obligation aujourd'hui que... Donc, on applique, par exemple, ce sont les seules élections où on applique ce mode de scrutin. Aux élections donc départementales, depuis les dernières élections, on applique ce qu'on appelle le scrutin binominal, c'est-à-dire que doivent se présenter un binôme homme-femme. Donc l'objectif, c'était de renforcer la représentation féminine au sein des assemblées, là dans ce cas d'une assemblée locale. Alors au Parlement, aux élections législatives, on n'applique pas ce scrutin binominal, donc il n'y a pas la même règle, mais il y a évidemment une incitation à ce que les femmes soient davantage associées donc aux mandats nationaux.
Mais pourquoi telle réforme ne peut pas s'adresser aussi aux jeunes ? Parce que à l'heure actuelle, la représentativité du peuple par âge ou par statut n'est pas aussi respectée. Est-ce que c'est légitime ?
Il y a quand même un principe de liberté, c'est-à-dire que on ne peut pas fixer des quotas. On n'applique pas la politique des quotas, c'est-à-dire on ne dit pas il faut 20% de jeunes de moins de 30 ans, 20% de gens entre 40 et 60 ans, 20% de gens de plus de 60 ans. Ça voudrait dire qu'on applique ce style de quota, ce qui a priori n'a pas de sens, parce que bien être jeune et avoir des idées, on peut très bien être vieux et ne pas avoir des idées, ou être vieux et avoir beaucoup plus d'idées que des jeunes, etc. Donc, ce qui s'applique, c'est un principe de liberté, c'est-à-dire que donc la loi, elle permet à toute personne majeure de plus de 18 ans de se présenter à des élections législatives. Rien n'empêche à des jeunes de se présenter. Rien, absolument rien aujourd'hui. Donc le principe, c'est à partir de 18 ans, vous avez le droit de vous présenter. Donc si un jeune est intéressé, il peut se présenter à des élections législatives. Mais rien ne lui interdit de se présenter.
Et par rapport au choix des suppléants, c'est la personne qui est censée représenter le député quand il ne peut pas être disponible. Est-ce que justement ces suppléants sont choisis ou est-ce qu'ils sont aussi élus ?
Alors donc aujourd'hui, une loi qui date, je pense, de l'époque du président Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il était président de la République. Donc je crois que c'est à cette époque qu'on a fait voter la loi sur les suppléants. Donc un député se présente aux élections avec un suppléant qu'il a choisi.
D'accord.
Et donc ce suppléant est chargé de le remplacer si le député est appelé à exercer, par exemple, si un député est appelé à exercer des fonctions de ministre. Donc vous savez qu'actuellement, il y a des ministres qui vont se présenter aux élections législatives, mais qui vont se présenter avec un suppléant. Donc si actuellement son ministre sont élus donc aux élections législatives, ce sera leur suppléant qui les remplaceront à l'Assemblée nationale. Et donc le ministre en question, s'il démissionne de son poste de ministre ou s'il est démissionné par le chef du gouvernement et par le président de la République, retrouvera son siège de député. Voilà. Donc le suppléant, il est destiné à remplacer le député en cas de nomination au gouvernement ou si le gouvernement lui donne une mission particulière de plus de 6 mois, etc. Voilà. Donc voilà à quoi sert le suppléant.
D'accord. Et il peut être changé à tout moment durant la campagne ou...
Ah non, le suppléant, donc là il y a, vous savez, là il y a eu vendredi soir, c'était la fin des déclarations de candidature. Donc au moment de la dépôt de la déclaration de candidature, celui qui se déclare candidat à une élection législative se présente avec son suppléant. Et donc on va élire, les 11 et 18 juin, on va élire le député et le suppléant qui figurera sur la déclaration de candidature.
C'est quoi la différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat ?
Alors, il s'agit de deux chambres. Vous savez que le Parlement français et, comme on le dit, bicaméral, c'est-à-dire qu'il est constitué de deux chambres. L'Assemblée nationale qui est formée de députés, le Sénat qui est formé de sénateurs. Donc ce sont ces deux chambres qui forment ce qu'on appelle le Parlement. Et les deux chambres réunies ensemble, les députés et les sénateurs réunis ensemble, forment ce qu'on appelle le Congrès. Donc les deux chambres participent donc à l'élaboration de la loi, au contrôle du gouvernement, comme je vous l'ai dit. Et les deux chambres réunies forment ce qu'on appelle le Congrès. Alors le Congrès, c'est une formation particulière du Parlement, c'est la réunion des deux chambres qui peut servir éventuellement à la révision de la Constitution, c'est-à-dire à la modification de la Constitution. Ou également, il y a une disposition récente de la Constitution qui a été adoptée d'une révision constitutionnelle en 2008 qui permet au président de la République d'adresser un message aux parlementaires réunis en Congrès. Donc ça, c'est une disposition nouvelle. C'est un peu, donc on a imité un petit peu le système américain, vous savez, où le président des États-Unis peut s'adresser aux membres du Congrès, a un droit de message devant les membres du Congrès. Donc il adresse à peu près 2 à 3 messages par an. Et donc on a imité un petit peu le système américain. Désormais, donc le président de la République peut s'adresser aux membres du Congrès. Voilà, à la suite donc de cette révision constitutionnelle de juillet 2008.
Et la seule différence entre un député et un sénateur, c'est les personnes qui l'élisent, c'est tout.
Alors la différence, c'est que les députés ont quand même plus de pouvoir que les sénateurs dans notre système aujourd'hui. Donc vous savez qu'une loi, elle doit être votée, et la Constitution, dans les mêmes termes, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il est possible que la majorité de l'Assemblée nationale soit différente de la majorité du Sénat, ce qui a été souvent le cas sous la Ve République. Et donc, dans l'hypothèse où on n'arrive pas à voter un texte identique à l'Assemblée nationale et au Sénat, au terme de ce qu'on appelle une navette parlementaire, eh bien, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc ce sont les députés qui décident, en fin de compte. Et donc, par conséquent, les députés ont un pouvoir supérieur aux sénateurs. En revanche, c'est pas possible. Cette supériorité des députés dans le domaine législatif n'est pas possible dans le domaine constitutionnel, c'est-à-dire dans le domaine d'une révision constitutionnelle. Si on veut modifier la Constitution, dans ce cas, le pouvoir des députés et des sénateurs est identique. Voilà. C'est la seule hypothèse dans laquelle le pouvoir des députés et des sénateurs est différent. Mais dans la procédure législative normale, finalement, les députés ont un pouvoir supérieur à celui des sénateurs.
Eh bien, merci beaucoup.
Eh bien, je vous remercie. Merci pour vos questions.
Alors, donc, Monsieur Dautribe et Monsieur donc Damien Vacher, je vous remercie donc de la participation sur notre antenne aujourd'hui.
Oui, je vous remercie aussi.
Ben, merci beaucoup de nous avoir invités.
Et donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.
Ok.
Merci beaucoup.
Bonne journée, merci.
Au revoir.